Nous lisons Hébreux chapitre 4, 1 à 15. Redoutons donc alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Donc nous sommes dans une explication des Israélites qui étaient dans l'errance dans l'Égypte, dans le désert, et donc ils n'ont pas écouté la parole. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, vous savez que Josué a suivi Moïse, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jusque-là, la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons entendre ta parole, entendre ce que tu nous as à nous dire ce soir, que ton esprit nous rende aptes à vraiment recevoir cette parole et la mettre en pratique. Amen. Ce soir, nous reprenons le thème du repos. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé de comment vivre le vrai repos. Et ce soir, on poursuit cette réflexion. Le véritable repos est illusoire, difficile à saisir, n'est-ce pas? Ceux qui sont insomniaques ou qui sont obligés de travailler la nuit en savent plus que moi. On en discutait dans la voiture. Rien n'est pire que de passer une nuit malade, en larmes ou en soucis. On a vécu tout ça. J'ai remarqué donc dans ma famille que, surtout quand on se lève le matin, la première chose à dire, c'est « As-tu bien dormi ?» Ça, c'est une bonne habitude française de faire la bise et savoir si l'autre a bien dormi. C'est plus qu'une phrase de politesse. C'est une manière de dire « Je t'aime et je veux savoir comment tu te sens aujourd'hui. Comment sens-tu après ton sommeil ?» Ou sur le plan psychologique, comment as-tu passé la nuit? Paisiblement ou troublé? Si la nuit est mal passée, on cherche souvent une explication matérielle, physique. Peut-être tu n'arrives pas à dormir à cause de mauvais lit. Peut-être laurier, ou il faisait trop chaud. à cause du bruit. Il y a toutes sortes d'excuses matérielles ou dans l'environnement qui pourraient faire troubler notre sommeil. Après, on réfléchit peut-être c'est à cause de tel ou tel souci qui a provoqué trouble dans la nuit. On reconnaît très facilement le regard de quelqu'un qui a passé une mauvaise nuit. Le repos physique a un jumeau, c'est la paix, le contentement spirituel. Et dans la Bible, le repos a une signification présente et future. Le repos du croyant indique en même temps l'état de son âme maintenant et la finalité de son être. Le sommeil du juste, c'est une expression, n'est-ce pas? Le sommeil du juste, on a bien dormi. C'est le cadeau que Dieu propose à toute personne prête à reconnaître son besoin d'être sauvée, d'être repêchée par Dieu. Un manque de repos spirituel est souvent lié à des personnes errantes, rebelles et en quête personnelle, mais loin de Dieu. Le terme biblique, la vie éternelle, englobe ces deux réalités, la paix aujourd'hui et la paix à venir dans la présence de Dieu. Notre texte biblique ce soir, en Hébreu chapitre 4, est à la fois une parole de réconfort à saisir, un avertissement à entendre et une exhortation à agir. Donc tout d'abord, une parole de réconfort à saisir. Ce n'est pas trop tard d'entendre et répondre à l'appel du Christ. C'est ce que j'entends dans ces premiers versets. Pour nous, la promesse d'entrer dans son repos est toujours valable. Jésus nous appelle à venir à lui, laisser notre fardeau, nos soucis, nos craintes, nos déceptions, car il est prêt et à tout prendre en charge. Et en échange, Jésus nous offre le cœur léger, le poids de notre passé sera enlevé. Je ne sais pas si vous avez vu un film il y a longtemps qui s'appelle La Mission. Donc c'est Robert De Niro qui est le grand homme fort, caractère principal, qui est donc c'est un Européen qui a colonisé avec tout un groupe de espagnol dans la jungle, et ils sont allés dans un endroit où ils chassaient, c'est malheureux de le dire, mais ils chassaient les autochtones, les rassemblaient et les mettaient aux travaux, un esclavage. Et il était horriblement violent et pas un personnage agréable. Même il était emporté par la colère, il a tué son petit frère à cause d'une différence pour une fille. Et donc cet homme, il est touché dans son être le plus profond à cause de ce meurtre qu'il a fait, et il se présente devant un prêtre, et le prêtre lui indique ce qu'il doit faire. Et il doit faire ce voyage dans le jungle à la mission, loin, au-dessus des torrents et les chutes. Il doit porter un énorme sac plein des armes qu'il a utilisées, plein d'armure, qui est presque impossible à porter lui seul. Il doit monter ces chutes, ces montagnes, et arriver à la mission. Et il peine, il a beaucoup de mal à arriver. Et les Indiens, ceux qui ont persécuté, le regardent, le voient. Et à un moment donné, l'un des Indiens décide de couper le cordon de son sac, d'enlever le poids de sa culpabilité. Et donc il est reçu dans la mission, et il est pardonné et transformé. Bon, la fin de la ministre, le film est un peu triste, mais là, cette partie-là est très, très forte. Et comme au temps de Jésus, il y a un homme religieux qui voulait avoir le même sentiment d'être libéré de son péché. C'est dans Jean chapitre 3. Il cherche à connaître la volonté de Dieu. Il cherche à connaître comment il peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Nicodème dans Jean chapitre 3. Et donc il vient voir Jésus la nuit et il lui pose une question. Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu et que personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème veut savoir, mais comment un homme peut rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Et Jésus, il indique qu'il doit être né de nouveau, né d'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il doit être transformé de l'intérieur. Et un peu plus tard, Jésus, il est marqué que Dieu nous a montré son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc cette expérience d'être pardonné entièrement de toutes nos fautes et d'avoir ce fardeau, ce sac, comme dans le film, enlevé, mais ce n'est pas que les fautes du passé, mais aussi du présent et des fautes que nous commettrons dans l'avenir. Dieu est là pour nous pardonner. Jean ne donne pas beaucoup de détails sur Nicodème, mais nous savons que cet entretien était critique pour lui. C'était un déclic, un virage dans sa vie, sa foi, où il est devenu disciple de Jésus. On voit en Jean 19, 39 que Nicodème était présent après la mort de Jésus quand ils ont enlevé son corps. Cet entretien, Jésus veut l'avoir avec chacun de nous aujourd'hui. Et il veut qu'on le cherche, qu'on le connaît, qu'on entre dans cette relation avec lui. Et donc c'est un repos que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. En Hébreux chapitre 4, nous sommes exhortés à écouter, à entendre et à recevoir la parole avec foi, si nous voulons vraiment comprendre la paix et le repos spirituel que donne Jésus, nous avons besoin d'être attentifs à sa parole. Malheureusement, ce n'est pas le comportement de certains des Israélites mentionnés au verset 2 et 3, où il est marqué qu'ils ne seront pas pardonnés et ils sont tombés et ils n'ont pas cru. Ne soyez pas comme les Israélites dans le désert, qui avaient le nuque raide et le cœur endurci contre l'Éternel. Eux, à cause de leur désobéissance, ils n'ont pas connu le vrai repos. Souvenez-vous que Dieu a libéré son peuple de l'oppresseur égyptien, le Pharaon. Dieu a envoyé Moïse, un Hébreu qui a été sauvé des eaux. Son nom, Moïse, signifie « sauvé des eaux » et qui a été élevé au palais. Mais ce Pharaon ne le reconnaissait pas, car Moïse était aussi un meurtrier, envoyé en exil. Dieu a repêché Moïse de son pays d'exil afin qu'il serve comme meneur du peuple. Dieu a donc libéré son peuple à main forte par des miracles et des signes redoutables. Ils ont même traversé la mer Rouge, la mer des joncs, miraculeusement à pied sec, car Dieu a séparé les eaux. Et ensuite, après leur passage, Dieu a fait tomber la mer sur l'armée égyptienne. Pendant un certain temps, le peuple était ravi et joyeux, mais dans peu de temps, le peuple avait commencé à se plaindre. Ils avaient marre du voyage très long vers leur nouveau pays, la terre promise. Une fois arrivés à la frontière de ce pays, selon l'Ancien Testament, Moïse a envoyé des espions, 12 hommes forts, pour explorer et prendre des renseignements. Enfin, après quelques jours, ils sont retournés avec deux rapports contradictoires. La majorité, les 10, ont dit que le pays est très beau et riche découlant de lait et du miel, mais les habitants étaient trop grands et leur ville trop bien fortifiée. Enfin, ils ont dit non, il ne faut pas prendre le pays. Le rapport de la minorité n'avait que deux voix, Josué et Caleb. Leur appréciation du pays était semblable, mais ils avaient la foi qu'avec l'Éternel, tout était possible. Enfin, ils ont dit, oui, il faut obéir à Dieu et prendre la terre promise. Malheureusement, la voix dominante était celle de ceux qui manquaient la foi. Par conséquent, selon le récit de l'Ancien Testament, Dieu a condamné cette génération à errer dans le désert jusqu'à la fin de leurs jours. La Bible parle de 40 ans d'errance dans le désert. Pourquoi faudrait-il que je vous raconte tout cela? C'est l'arrière-plan de notre texte en Hébreux 4. L'auteur de cette lettre nous est inconnu, mais il voudrait que nous soyons bien avertis. Donc il faut connaître un peu l'histoire derrière. Ne suivez pas l'exemple des incrédules, c'est le message. Murmurez quand il n'y a pas d'eau, se plaindre quand il n'y a pas la viande et les légumes comme en Égypte, disputer avec l'homme que Dieu a mis comme meneur, Moïse, forger un veau d'or quand Moïse est parti à la montagne trop longtemps. En bref, certaines parmi les peuples d'Israël ne voulaient pas vraiment obéir à Dieu. Ils étaient rebelles, ils ne faisaient que leur tête. Selon notre texte biblique, ceux-là n'entreront pas dans le repos, la terre promise. Nous sommes fortement conseillés à éviter leur exemple, leur attitude. C'est un peu fou quand même, quand ils ont oublié que l'Éternel est le repos, le roi du repos. C'est lui qui l'a inventé. Après la création, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres de création. Ce Dieu créateur savait aussi apprécier les bonnes choses. Il regardait tout ce qu'il a fait. C'était merveilleux, c'était parfait. Donc on sait que Dieu est là pour se réjouir avec nous quand nous faisons des bons choix. Dieu n'est pas là pour gâcher la fête ou être rabat-joie. Il est là pour nous soutenir et nous aider à faire des bons choix. L'exemple là est négatif, mais on peut le comprendre aussi positivement. Et donc nous arrivons à notre troisième volet, une exhortation à agir. Donc la première, c'était une parole de réconfort à saisir. Deuxième, un avertissement à entendre. Et maintenant, une exhortation à agir. Empressons-nous d'entrer dans le repos que Jésus-Christ nous a offert. Le repos spirituel n'est pas quelque chose que nous gagnons par notre propre mérite. Ce n'est pas la coupe qu'on gagne après un match bien disputé. Non, c'est un cadeau. Donc on voit que dans les matchs de foot, il y a bien ceux qui marquent les buts, mais seulement celui au bout d'une chaîne de toute une activité, des passes, c'est un travail d'équipe. Et donc on sait que c'est Jésus-Christ qui nous fait gagner, c'est lui qui est celui qui marque le but, c'est celui qui a obéi parfaitement à Dieu. Il a obéi par son humiliation, prenant la forme humaine. Il a obéi ses parents, malgré leurs limites. Il a résisté la tentation du diable et ses envoyés. Il a été tenté plein de fois dans sa vie. Il a enseigné avec autorité la parole. Et il était dominant des esprits mauvais et guérissait des maladies. Jésus a même triomphé la mort et le péché sur la croix. Donc on voit que ce n'est pas un travail d'équipe comme en foot, c'est Jésus qui a tout fait. Il a fait tous les passes, il a marqué le but. Jésus est ressuscité, il est monté aussi auprès du Père, où il s'est assis pour entrer dans le repos promis. C'est pourquoi l'auteur de cette lettre nous exhorte, empressons-nous d'entrer dans le repos que Jésus-Christ nous a offert. Comment pouvons-nous entrer dans le repos? C'est un peu théorique, mais comment mettre ça dans des idées réelles? Soyons clairs, pasteur. Donc, je pense que on peut freiner ou on peut accélérer. Ça, c'est assez concret. Comment pouvons-nous freiner notre accès à ce repos? Nous pouvons freiner en entretenant des soucis de demain. Si on pense à tout ce qui peut aller mal ou qui pourrait être un sujet de problème, ça ne nous aide pas à entrer dans le repos. Ou si nous avons peur de ne pas arriver au bout, de dire est-ce que je peux tenir la distance comme chrétien, ou est-ce que j'aurai des doutes qui vont me faire tomber. Ça, avoir peur, c'est ne pas entrer dans le repos. Ou succomber à la tentation d'orgueil, penser que je peux tout faire tout seul. Ça, c'est pas entrer dans le repos. C'est encourager le cœur à faire toi-même. Ou l'impatience, le fait qu'on ne voit pas le résultat et on est impatient avec Dieu. Ça ne nous aide pas non plus à entrer dans le repos. On peut aussi entrer dans le repos en accélérant. Comment on appuie l'accélérateur dans une voiture. Donc, se rappeler que Dieu est souverain, ça nous aide à entrer dans le repos. Savoir qu'il règne maintenant. Et au moment le plus difficile, de dire, malgré tout, il règne. Il est souverain, même si à ce moment précis, je ne vois pas exactement son plan. Se confier à lui, c'est toujours un bon réflexe et ça nous pousse, ça nous accélère dans le repos. Et reconnaître nos limites, de dire, Seigneur, au secours, je ne peux pas tout seul. Ou trouver dans la famille de Dieu, dans la communauté, l'encouragement, ça nous aide à entrer, à accélérer dans le repos de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce passage de la Bible qui nous avertisse bien, qui nous rappelle aussi ton amour et le fait qu'il y a toujours le Dieu de deuxième et troisième et quatrième chance. Tu es là pour nous montrer le chemin vers la terre promise. Et tu veux qu'on soit d'accord avec cela, que nous soyons vraiment prêts à écouter et à entrer dans ce plan que tu as pour nous, de connaître le vrai paix et connaître aussi la confiance dans nos vies personnelles et spirituelles. Amen.